Laurent Kupferman, bonjour.
Bonjour Clémentine Pavlovski.
Pourquoi est-ce qu'il était important pour vous que Joséphine Baker rejoigne les Immortels en entrant au Panthéon, vous qui avez milité pour cette entrée au Panthéon?
Eh bien, dans un monde qui se fracture, comme celui dans lequel nous vivons, où chacun revendique une part d'identité, je crois qu'il est bon d'avoir une personne aussi exemplaire dans ses engagements, aussi remarquable dans son courage, qui permettent de nous réunir, de nous rassembler dans un pays, la nation, et plus largement dans notre appartenance au genre humain. Je crois que c'est ça que symbolise Joséphine Baker.
Plus concrètement, Laurent Kupferman, de quoi est-elle le symbole et quels ont été ses grands combats ?
Elle est un symbole déjà d'une femme libre. Elle est née en 1906 à Saint-Louis dans le Missouri. Je vous rappelle qu'elle quitte un pays qui est gangrénée par la discrimination raciale, la ségrégation. D'ailleurs, elle a 11 ans quand elle assiste à des violentes émeutes au cours desquelles de nombreuses personnes noires sont abattues comme des chiens. Elle en est le témoin direct et ça la marque profondément. Elle est donc le symbole d'une femme libre, d'une femme émancipée, d'une femme qui prend son destin en main. Lorsqu'elle décide, suite à la proposition de Caroline Dudley, qui a été mandatée par le directeur du Théâtre des Champs-Élysées pour faire à Paris un spectacle qui s'appelle La Revue Nègre et qui connaîtra un succès immédiat. Donc ce destin de femme libre, ce destin de femme qui se battra toute sa vie pour l'égalité, évidemment, l'égalité entre les hommes, les femmes et les hommes, aurait-elle précisé, pour elle, il n'y a pas d'autre race que la race humaine. Donc c'est un discours qui aujourd'hui est, je trouve, très moderne, malheureusement, mais qui est moderne et inspirant. Et elle se bat aussi pour la fraternité universelle, notamment en créant cette famille tribu arc-en-ciel, avec des enfants issus des quatre coins du monde, de toutes les religions, car elle pense qu'il ne faut pas avoir peur de la différence, qu'au contraire, c'est un facteur d'épanouissement et d'enrichissement. Eh bien, je crois que ce message-là, qui est républicain, universaliste, ça nous fait du bien de l'entendre et ça nous fera du bien de nous rassembler autour d'elle, autour de ses valeurs. Et puis, je veux ajouter quelque chose. C'était une artiste du spectacle vivant. C'est la première artiste du spectacle vivant à entrer au Panthéon. Ça n'est pas rien et ça va nous apporter un peu de joie.
Alors justement, Laurent Kupferman, entrer au Panthéon, qu'est-ce que ça représente concrètement ?
Alors vous savez, le Panthéon, c'est pas le top 50. Donc on n'entre pas au Panthéon parce qu'on est connu. On entre au Panthéon par l'apport que l'on fait à l'esprit civique de la nation. Donc Joséphine Baker, elle est plus qu'une grande artiste. Elle est un exemple. Les jeunes arrivent très vite à se projeter sur une personne comme Joséphine Baker parce que c'est pas une grande scientifique, c'est pas une grande philosophe, c'est presque une femme comme vous et moi. Elle est très accessible et elle fait naître le désir d'abord d'exemplarité, ce qui est important. C'est la République des devoirs, Joséphine Baker. C'est bien sûr la République des droits, le droit à l'égalité, mais la République des devoirs. Je vous rappelle qu'elle devient française le 30 novembre 1937. C'est ce qui a motivé le choix de cette date. En épousant Jean Lion Lévy, le fondateur des bonbons La Pie qui chante. C'est pas très à la mode d'épouser un juif en 37. Donc, il y a aussi cette forme de courage chez Joséphine Baker.
Et alors, dès les débuts de la Seconde Guerre mondiale, en 1939, elle s'engage dans la résistance. Concrètement, qu'est-ce qu'elle a fait ? Et comment une artiste comme elle s'est retrouvée résistante ?
Dès septembre 39, dès la déclaration de guerre, elle est au Vésinet. Et elle fait venir au Vésinet le capitaine Aptet, qui deviendra plus tard commandant. Elle est dans son jardin, elle ramasse les escargots. Elle n'est pas peignée et d'un seul coup, elle se relève et là, elle arrive majestueuse, parce qu'elle était majestueuse, et elle lui fait « Capitaine, la France m'a tout donné. Faites de moi ce que vous voulez, je vous donne ma vie. » Et là, Aptet, qui était un peu frappé par cette femme qu'il voyait comme ça penchée, est frappée par sa dignité, la puissance de son désir d'engagement. Et comme il dira, je ne l'ai pas regretté. Pourquoi ne l'a-t-il pas regretté? L'état-major mandate une femme qui est une star internationale. La France peut donc bénéficier d'une femme qui a accès à toutes les soirées mondaines, y compris celles qui sont organisées par les forces de l'Axe, dans les ambassades. Donc elle récolte des informations qui peuvent paraître anodines, mais qui sont stratégiques. Et vous savez, cette anecdote que tout le monde connaît, elle fait noter par Aptek, qui est officiellement son secrétaire particulier, mais qui est en réalité son officier de traitement, toutes les informations sur des partitions à l'encre sympathique, c'est-à-dire l'encre invisible qu'on fait apparaître en réchauffant la feuille. Et les partitions, elle les fait passer comment de l'autre côté? Il n'y a pas Internet, hein, il y a rien, il n'y a pas les réseaux sociaux, voilà. Donc c'est une époque où communiquer, c'est très compliqué. Donc elle cache ses partitions dans les valises, et puis elle passe les frontières, parce que comme c'est une star, elle a la chance d'être... On lui contrôle son passeport vaguement, puis elle signe des autographes. Mais ça paraît léger comme ça, mais si elle avait été contrôlée, et si un microfilm avait été trouvé, ou si une partition avait été trouvée, elle était fusillée sur l'heure, sans autre forme de procès. Donc c'est une femme vraiment courageuse, qui s'est puissamment engagée.
L'idée de la panthéonisation de Joséphine Baker est née en 2013. Huit ans se sont écoulés avant la concrétisation de cette idée. Pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps pour Joséphine Baker?
Vous avez raison de rappeler que c'est Régis Debray le premier qui a eu cette idée que j'ai trouvée incroyable. Il se trouve que ça n'a pas été suivi d'effet, sauf que c'est resté quelque part dans mon cerveau. Et j'ai contacté Régis Debray et il m'a autorisé à reprendre cette idée, qui était la sienne. En quelque sorte, il a allumé la flamme et nous avons porté le flambeau. Alors pourquoi ça n'a pas pris en 2013 et pourquoi ça prend en 2021? Probablement parce qu'il y a un temps pour tout. Et que les combats qui sont ceux de Joséphine Baker, la lutte contre le racisme, la lutte contre l'antisémitisme, n'ont jamais été malheureusement autant d'actualité.
Alors justement, l'ancien président François Hollande n'a pas donné suite à cette idée. Comment est-ce que vous avez convaincu son successeur Emmanuel Macron? Comment ça s'est passé en coulisses?
Alors en coulisses, ça s'est passé en deux temps. On a d'abord, avec Brian Bouillon-Baker, Pascal Horry, Jennifer Guédon et moi, nous avons été reçus par les conseillers du président de la République pendant une heure et nous avons plaidé notre dossier, si j'ose dire, avec une oreille très attentive. Et puis au bout d'une heure de rendez-vous, il y a une petite porte qui s'est ouverte, et puis est arrivée l'épouse du chef de l'État, qui nous a dit des choses qui nous ont réchauffé le cœur et qui nous ont rendus très optimistes. Mais néanmoins, vous savez que dans les institutions de la Ve République, c'est le président de la République qui décide, et l'optimisme, c'est pas forcément la réalité. Donc il a fallu attendre le rendez-vous avec le président de la République en juillet pour que nous nous retrouvions. Là, cette fois-ci, il y avait Pascal Bruckner, Laurent Voulzy, évidemment Brian. Et puis, il nous a fait parler. Il nous a demandé pourquoi vous pensez que Joséphine Baker a sa place au Panthéon. Et à la fin, il nous a regardés un par un et puis il a dit « Eh bien, c'est oui ».
Il n'a exprimé aucune réticence?
Aucune. Il a dit juste une seule chose, c'est oui, mais vous me laissez l'annoncer.
Joséphine Baker va donc entrer au Panthéon, mais son corps restera à Monaco, où elle est enterrée depuis 1975 au cimetière marin. Pourquoi ce choix? C'était une volonté de la famille?
Il y a trois raisons. La première, c'est que ça ne peut pas se faire sans le désir de la famille, une panthéonisation. C'est la rencontre entre un moment, le désir de la famille, et l'acceptation par le chef de l'État. Donc la famille, pour des raisons que je peux parfaitement comprendre, a souhaité que sa dépouille reste en principauté. Parce que il y a eu un incident très important lors d'une tournée aux États-Unis d'Amérique de Joséphine Baker. Elle va plusieurs fois aux États-Unis, ça ne se passe pas toujours très bien. Il faut dire les choses, en 36 ça se passe très mal, pas bien en tout cas. Et en 51... c'est pareil parce que Joséphine Baker est une militante. Et donc elle fait exiger par contrat que si on la veut pour chanter dans un concert, la salle doit être ouverte à tout le monde, pas un public uniquement blanc ou un public uniquement noir. Ça lui fait perdre 80% de ses contrats. Et ça lui donne une image de militante activiste qui n'est pas toujours bien vue. Donc un jour, elle va au Stork Club, qui est un restaurant extrêmement coté à New York. C'est une star, on la laisse rentrer, mais elle est noire, on ne la sert pas. Et au bout d'une heure, une heure et quart, ses amis lui disent « Bon ben, écoute, on y va ?» Elle dit « Non, j'ai été volontairement humiliée, il est hors de question que je parte sans faire quoi que ce soit. » Elle prend le téléphone du restaurant, elle téléphone à son avocat, qui est aussi l'avocat du NAACP, donc l'association qui défend les droits civiques. Elle appelle la police, elle appelle la justice, et elle fera défiler des piquets, vous savez, avec les panneaux, devant le restaurant, jusqu'à ce que le restaurant ferme. Il y a un témoin à cet incident grave, c'est une jeune actrice qui s'appelle Grace Kelly. Et Grace Kelly, vous savez, elle épousera le prince Rainier III de Monaco, elle deviendra princesse de Monaco de ce fait, et lorsque Joséphine connaîtra un revers de fortune, parce que c'était une femme qui était extrêmement généreuse, parfois entourée de personnes qui abusaient de sa générosité, eh bien, la princesse Grace, qui s'est souvenue de cet épisode du Stork Club, lui proposera de l'accueillir avec toute sa famille à Roquebrune-Cap-Martin, juste en lisière de la principauté. Et c'est là-bas qu'elle est enterrée avec son mari, Joe Bouillon. Et il n'était pas question pour la famille de séparer cette famille unie. Je veux ajouter que ce n'est pas un cimetière, le Panthéon. Ce qu'on y accueille et ce qu'on y célèbre, c'est un patrimoine immatériel. Et là, en l'espèce, c'est l'action au service de la patrie de Joséphine Baker.
Merci beaucoup, Laurent Kupferman, d'avoir été avec nous.